Bonjour et bienvenue sur CFM pour cette nouvelle émission des Messagers du Cheval, une émission de Virginie Boer et Michel Clément. Aujourd'hui, nous concluons notre triptyque sur Napoléon Bonaparte et les chevaux à l'occasion des commémorations du bicentenaire de sa mort. Après avoir évoqué dans l'émission précédente le mystérieux Marengo, nous allons parler ici de deux autres chevaux de Napoléon, le Tamerlan et l'Héliopolis, qui ont séjourné ici à Rodez. Parmi nos auditeurs, ceux qui ont assisté aux manifestations célébrant le bicentenaire du haras de Rodez en 2009, peut-être certains se souviendront de quatre tableaux présentés au cours du spectacle orchestré par Mario Luracci. Trois d'entre eux évoquaient directement Napoléon à travers les guerres napoléoniennes et leur mort. L'autre, intitulé « Tamerlan », nous donnait à voir un peintre face à une immense toile représentant un cheval. Ce cheval cabré, c'est Tamerlan. Le peintre, c'est Théodore Géricault, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Pour bien comprendre d'abord comment le Tamerlan et l'Héliopolis se sont retrouvés au haras de Rodez, nous allons d'abord faire un saut dans le temps. Les haras, avant de devenir nationaux, ont d'abord été royaux. Ils ont été créés par Jean-Baptiste Colbert, l'un des principaux ministres de Louis XIV, alors intendant des finances, afin de lutter contre la crise que connaît l'élevage en France par manque d'étalons de qualité. Des étalons royaux sont alors confiés à des gardes étalons, mais ceux-ci ont tendance à se les approprier. L'année 1715 marque la construction du haras du Pin et le développement de l'institution des haras sous la direction du marquis de Bracasse, qui crée le Code des haras en 1717. La réforme de 1764 voit les haras royaux passer sous la charge du grand écuyer de France. Au XVIIIe siècle, Rodez abrite la résidence de l'évêque de la ville et c'est un centre de foire actif. Voilà pourquoi un dépôt d'étalons y fut créé en 1783. Il fut installé à la grange des Capucines, à proximité de l'actuelle prison qui dépendait de l'hôpital général. Pendant la Révolution, l'Assemblée constituante décide la suppression des haras en janvier 1790. Plusieurs raisons expliquent cela. Le nombre insuffisant d'étalons, des critères de sélection en matière d'élevage et l'hostilité de la population au gard d'étalons. En effet, l'administration était contrôlée par la noblesse, l'élevage du cheval de selle se faisait au détriment du cheval de trait, alors que les paysans finançaient l'institution. Quant aux gard d'étalons recrutés parmi les fermiers et laboureurs aisés, ils ont cristallisé la haine. En 1790, l'ordre vient à Rodez, comme partout ailleurs en France, de vendre les étalons du dépôt. Ici, il y en avait 10. Néanmoins, face aux guerres révolutionnaires et à l'épuisement de réserves en chevaux, la Convention nationale décrète le 2 germinal de l'an 3, c'est-à-dire le 22 mars 1795, l'établissement de 7 dépôts pour chevaux de la cavalerie et des dépôts de chevaux de trait et de labour chez les particuliers. Les dépôts du Pin, de Pompadour et de Rosières sont remis en service, ainsi que le système des gardes étalons. Une vraie réflexion est portée sur la réorganisation des haras selon les préconisations de Napoléon Bonaparte. Liberté, protection et encouragement, des principes destinés à améliorer l'espèce, augmenter le nombre de chevaux requis dans les domaines comme l'agriculture, les transports et l'armée. Face aux erreurs en matière d'élevage commises sous l'Ancien Régime, Napoléon a bien compris qu'il faut à la France des chevaux de qualité et c'est dans cette optique que la loi du 4 juillet 1806 voit la création de 6 haras et 30 dépôts d'étalons répartis en 6 arrondissements. Et comme on l'a vu précédemment, il nomme un grand écuyer, Armand de Caulaincourt, pour veiller aux destinées des chevaux impériaux. Le 28 novembre 1806, l'arrivée de 4 poulinières arabes retour d'Égypte est annoncée à Rodez, qui dès lors devient un haras. Il fait partie de l'arrondissement du Midi avec Pau, Tarbes, Perpignan et Agen. Et pour avoir plus de place, il s'installe dans l'ancienne Chartreuse fondée en 1513 sous le règne de Louis XII. Les 4 juments s'appellent Memphis, Zénobie, Fatime et Momie. On les identifie comme retour d'Égypte car elles proviennent de ce pays. Grâce aux séances annuelles tenues par la Société d'agriculture du département de la Seine, future Académie d'agriculture, nous pouvons suivre l'évolution de l'élevage et de l'histoire des haras et des dépôts. Lors de la séance du 21 juillet 1811, il est dit, je cite, « Le propriétaire du jument cherche avec soin ces beaux étalons que le gouvernement entretient pour son usage. La bonté du système libéral adopté pour ce genre de service prend toujours plus de consistance et les établissements constitués sont devenus plus nombreux. Sa Majesté, en donnant cette année à l'administration des haras 27 étalons arabes ou barbes tirés de ses propres écuries, lui a fourni les moyens les plus puissants d'amélioration. Ainsi, tous les ans, au printemps, les brigadiers des grandes écuries amenaient une partie des étalons des écuries dans les haras. Une autre partie était mise au vert dans l'Orne ou dans le Calvados et certains étaient laissés en dépôt. Le directeur des haras de l'empereur était à chaque fois dépêché pour veiller à ce que ne soient présentés à ces étalons que des juments saines et de bonne race, et que les étalons ne servent que d'un jour l'un, et à ce qu'ils soient accouplés avec les juments qui conviennent à leur race respective, le grand écuyer tenant plus à la supériorité des productions qui doivent être le résultat de saint envoi qu'à leur nombre. C'est une citation. Et voilà pourquoi le Tamerlan et l'Héliopolis sont arrivés à Rodez. Après cette introduction sur les haras et avant de découvrir ces deux chevaux, nous allons écouter La lumière du noir du rappeur aveyronnais L'Ombre en l'honneur de Pierre Soulages.
Traverser la lumière à travers l'horizon, aimer le silence et ne pas craindre ces discussions, se servir du noir. Profiter de cette lueur qui brille aux éclats, quand c'est une seule petite faille qui se dessine sur le volet. J'aime jouer avec, sentir sa chaleur, dessécher, créer sa bulle, faire danser son âme. Penser avec ses valeurs, ne plus craindre aucun masque. Je l'utilise comme médiateur, concentre sans mes pensées. La lumière jaillit du noir quand son sourire éclaire mes journées. J'aime l'écrire, parfois peser son poids. J'aime voir ses vertus, sa singulière voix.
C'est une lumière secrète, une lumière qui n'est pas évidente.
Distinguer cette luciole qui guide notre chemin, qui éloigne le mal, qui épouse le bien. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir du recul sur les choses, d'occuper sa place, de prendre conscience de la lumière dont on dispose. Je veux crier, rejeter ces douleurs maladroites, cette noirceur qui noie l'âme dans l'ivresse, trop loin de ses amarres, sentir mes repères. Quand tout semble tellement perdu, je veux sourire et jouir de cette lumière, crédule, panser les plaies. Soigner le noir par ses striures. Observez l'espoir.
C'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche.
C'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche.
C'est en fabriquant de la vie que se forge mon esprit, que j'apprends pourquoi je vis, que je crie ce que j'ai à dire. Les objectifs sont nombreux, plus on avance sur le chemin, plus on se tient la main, plus tout paraîtra si simple. Je me nourris du quotidien, de cette nature qui résiste, qui s'oppose à l'être humain, à qui tout semble appartenir. En attendant, la rivière ruisselle encore un petit peu, la pression d'eau baisse, pendant que l'on baisse les règles du jeu. Pardonnez-moi d'être grossier, de lutter comme je le peux. Je crois à la nature des choses, à son charme mystérieux. Alors j'avance, j'avance, j'emmène avec moi mon bagage et mes bras prêts à déplacer des montagnes.
J'aime les déserts, j'aime les étendues nues. Sur des choses qui... Comme j'aime le silence.
Silence s'attourne dans ce film qu'est la vie. Combler les interstices pour sentir la force du bruit. Le silence, je le représente par de grandes immensités, des étendues nues qui sont riches que de leur infinité. Infinité à y voir, à penser son destin. L'homme est plus à l'aise quand il peut voir loin, crier ses peurs, sentir l'écho de sa révolte. Paradoxalement, l'écho rappelle cette bulle qui nous absorbe. Dans celle-là, on s'y sent bien. Il faut bien aussi des fois trouver son confort. C'est pratique quand on a que soi. Je vois du haut de ma dune les paysages qui se croisent. Je mets les voiles, je ferme les yeux, je me téléporte dans les étoiles. Je me téléporte dans les étoiles. J'aime l'outre noir, la lumière qui brille dans le froid. Celle qui sentit même quand il n'y aurait pas vraiment de quoi. Celle qui nous fait grandir quand tous les signaux sont au plus bas. Qui croit en l'espoir plus que moi, qui sait que je n'abandonnerai pas. C'est une petite voix, on fouille dans mon corps, qui a su mes plaies, qui surgit et qui guérit mon cœur quand il est abîmé. C'est elle et moi, seulement elle et moi, canassé et laxé. Quand je suis faible des fois, j'ai envie de tout faire sauter, de me barrer de là. Triste constat, ma vie me fait mal, mais je lâcherai pas. T'es fou toi, même si tout est aligné pour que la mort m'ouvre les bras. Je lui cracherai dedans et prierai pour qu'un éclair la foudroie. Je veux rejoindre ma lune, cette lumière intérieure. Retrouver le pourquoi je me bats, les raisons de mon combat. Plus le temps perd du temps, il est tard, ça y est c'est l'heure. Je veux continuer de prôner mes erreurs, de raconter mes histoires. Tant que je suis pas à terre, je serai là avec le sourire. À prier pour ma vie ne se brise pas comme mes fêlures. C'est la lumière du noir, celle qui fait que j'écris ça. Qui m'offre la foi, qui sait me faire croire en moi quand ça ne va pas. Je lui dois bien ça. Croire en l'espoir, ce qui tue pas rend plus fort. Crois-moi, c'est la lumière du noir.
L'Héliopolis est le premier des deux chevaux à arriver au haras de Rodez. Comme nous l'indique le registre, son numéro de matricule est le 450. Voici son signalement. Taille, 1m41. Robe, alezan rubicant ou pirouan. Race, pur sang arabe. Que sait-on de son histoire ? Nous revenons au registre. Ce magnifique étalon naquit en Arabie en 1798. Sous l'ordre du général Bonaparte, le piqueur, M. Laravine, acquit pour la somme de 2184 francs cet élégant pur sang. Âgé de 6 ans, ce gracieux cheval, possédant tous les caractères instinctifs de sa race, intégra au début de l'an 12, 1804, l'équipage de selle des écuries de Versailles. Apprécié par sa qualité de travail, il deviendra en ce lieu la monture favorite du premier consul. En 1810, âgé de 12 ans, l'Héliopolis sera transféré au haras d'Aurillac. Ensuite, il passa le 9 mars 1811 au ministère de l'Intérieur. Le 3 avril, âgé de 13 ans, celui-ci sera affecté au haras national de Rodez, où il résida jusqu'en 1819. Ensuite, en 1820, âgé de 22 ans, il sera emmené dans la commune de Laine. Celle-ci se trouve près de Millau. De retour à Rodez en 1823, il meurt le 19 septembre. Grâce au registre, on sait que l'Héliopolis a saillie 318 juments et a engendré 48 poulains et 66 pouliches, soit un total de 114 produits, comme on dit en élevage. Le Tamerlan, lui, est inscrit dans le registre du haras sous le numéro de matricule 66 du ministère 458. Concernant son signalement, on peut lire « Âge, né en 1798 ». Le Tamerlan a donc 16 ans quand il arrive à Rodez. Taille, 1m46. Robe, gris clair, légèrement étourneau sur la croupe et les fesses. Tête, tache de ladre au bout du nez, épis excentrique à la partie supérieure du front. Tache dénuée de poils à la partie postérieure du garrot. Race, persane. Voilà ce que l'on peut lire également dans le registre. Ce somptueux cheval fut acquis à prix d'argent pour son éclat et sa beauté par le piqueur M. Laravine au prince Gzewierinski le 1er décembre 1809. Payé 1675 roubles et ramené en France. Cet étalon en rentre à l'équipage de selle de Versailles le 31 décembre 1809 à l'âge de 11 ans. Ensuite, celui-ci passe le 11 janvier 1814 à l'âge de 16 ans au ministère de l'Intérieur. Cet étalon précieux par sa race, ses formes et son élégance est affecté au dépôt du haras national de Rodez du 11 avril au 5 décembre 1818 où il saillit plusieurs juments. Suite à ses années passées en ce lieu, il sera transféré au dépôt du haras national de Tarbes le 16 décembre 1818. Cet admirable étalon de selle mourut le 4 septembre 1824 à l'âge de 26 ans, à la suite d'une saillie au dépôt de Tarbes. Au cours de sa carrière d'étalon au haras, le Tamerlan saillira 67 juments, mais n'aura que 11 produits, soit 3 poulains et 8 pouliches. Sur le registre, on peut lire également les remarques suivantes qui nous offrent des informations sur le cheval. La première remarque date de 1814. Cet étalon fit la monte au dépôt. Sa monte fut interrompue pendant 20 jours par une meurtrissure violente qu'il s'occasionna lui-même dans sa loge, à la cuisse, du montoir. La poitrine de cet animal, qui était d'ailleurs un peu fêlée, fut fortement compromise dans cet accident. La diète, des béchiques, alors il s'agit de remèdes pectoraux, des béchiques fondants, l'ont enfin remis dans le premier état. Mais il a besoin d'être constamment tenu à un régime qui se compose de 1/4 foin, 3/4 paille, avec le barbotage parfois miellé, nitré et soufré. Visiblement, le Tamerlan était un cheval qui avait beaucoup de sang et de caractère. La deuxième remarque date de 1816. La voici. Cet étalon précieux par sa race, ses formes, son élégance devraient être employés à faire souche si les juments arabes de ce dépôt n'étaient pas spécialement destinés à la propagation de l'arabe pur. Ses productions sont très bien et très distinguées. Comme je l'évoquais en début d'émission, le Tamerlan est passé à la postérité grâce au tableau de Géricault peint en 1813. Mais après avoir lu la description du cheval que nous en a fait le Hara de Rodez, on a bien du mal à le reconnaître dans ce cheval blanc cabré à la crinière tressée, signe de chevaux de haut rang, avec sa selle rase d'officier général. Comme le cheval peint par David sur le tableau représentant Napoléon franchissant les Alpes, il est plus probable que ce Tamerlan soit une représentation symbolique des chevaux des écuries impériales. Le jeune Géricault a passé beaucoup de temps dans la propriété de son oncle, M. Caruel, à Versailles, où il trouva ses modèles dans les grandes écuries. Ses célèbres tableaux de croupes et de poitrail y ont été réalisés. Il y peignit en compagnie d'Horace Vernet, qui, lui, avait reçu une commande de la maison de l'empereur, soit le portrait de 10 chevaux qui lui seront payés 250 francs en décembre 1813. Il s'agit de Vizir, Gisors, Loca, Favori, Arbé, Néron, Wagram, Calvados, Tamerlan et Hippogriffe. Le Tamerlan d'Horace Vernet, peint en 1812, semble plus proche de la vérité, même si le cheval est représenté sur fond de paysage de désert avec son entraîneur en costume exotique, anticipant le mouvement orientaliste en peinture. Il existe également un autre tableau de Géricault peint en 1810 si l'on en croit une inscription sur le châssis de la toile représentant trois étalons juste acquis par l'empereur. Ce tableau s'intitule « Cheval blanc debout dans une écurie » ou « Tamerlan, étalon des écuries de Versailles ». Au premier plan se tient un magnifique cheval gris vu de profil. Il s'agit de Tamerlan. Derrière, vu de trois quarts de dos et portant une couverture, se tiendrait Néron. Enfin, on peut apercevoir la tête d'un troisième cheval au-dessus de la croupe de Tamerlan. On sait que ces deux chevaux font partie de la liste de Vernet, donc il n'est pas exclu qu'ils aient été peints également en 1813, car l'inscription situant l'exécution du tableau en 1810, comme les détails sur les chevaux, n'est pas de la main de Géricault. Il existe deux copies de ce tableau, une aux États-Unis au Smith's College Museum of Art de Northampton et une autre dans une collection privée. On le voit, que cela soit Marengo ou le Tamerlan représenté par Géricault, les chevaux de Napoléon conservent leur mystère. On ne peut affirmer avec certitude à quoi ils ressemblent, sauf pour ceux peints par Horace Vernet et Alexandre Ivanovitch Sauerweide, suivant une commande du grand écuyer. Il s'agissait de le Cyrus, le Kurde, le Sarah, le Labrador, le Cid, le Cordoue, l'Épicurien, le Sagonte, l'Intendant, l'Embelli, le Gessner, le Bréant et le Würzburg. Parmi eux, certains proviennent des écuries personnelles de Caulaincourt. Le peintre Pierre Martinet a également représenté des chevaux de Napoléon, dont le Vizir, le Distingué, le Familier et le Triomphant, dont les portraits se trouvent aujourd'hui au Musée national des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau. Enfin, au Musée de l'Armée, se trouve un cheval arabe gris naturalisé, d'1,35 m au garrot, dont la cuisse porte le N couronné. Il s'agit du Vizir, et c'est certainement l'un des chevaux de Napoléon que l'on connaît le mieux. Offert par le sultan turc Selim III, arrivé en France à 9 ans, ayant participé à de nombreuses batailles, il est mort à 33 ans chez M. de Scholler, un écuyer des écuries impériales qu'il avait récupéré après l'abdication de Napoléon. Avec ses portraits, les registres des haras sont là également pour témoigner de ces chevaux d'exception qui ont donné à l'élevage français un nouvel élan et la qualité qui lui manquait. Vous retrouverez sur la page Facebook de l'émission les portraits de ces chevaux que nous avons évoqués, en tout cas un certain nombre d'entre eux. Notre émission est terminée. Nous vous souhaitons à tous une très bonne semaine en attendant de vous retrouver très bientôt.